Place Info. France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Bonsoir, l'homophobie dans les stades, la rentrée Blanquer dans notre enquête au Doxa Dentsu Consulting, Nicolas Sarkozy au MEDEF, mais également la sécheresse en France. C'est dans les informés avec nos invités. Bonsoir à vous, Nathalie Moret, journaliste politique au bureau parisien du groupe EBRA. Ce sont les grands titres de la presse quotidienne régionale du Grand Est. Avec Véronique Relsoult, directrice générale de Dentsu Consulting. Avec Arnaud Gonzague, co-chef du service société à l'Obs, spécialiste des questions environnementales. Et Gilles Bornstein, éditorialiste sur France Info. Bienvenue à tous les quatre. Nous sommes ensemble à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT jusqu'à 21h. 12 minutes d'interruption hier soir pour des chants et des banderoles homophobes lors du Nice-Marseille en Ligue 1 dans le stade de l'Alliance Riviera. Que faire dans ces moments? Stopper le match comme l'a fait l'arbitre? Écoutez l'avis du sélectionneur national de l'équipe de France, Didier Deschamps.
Un problème difficile à régler, et ça demande certainement une réflexion très approfondie. C'est possible qu'il y ait une certaine forme de provocation aussi à vouloir mettre une banderole, le match est arrêté, mais il n'y a pas de place de toute façon, donc il faut être intransigeant par rapport à ce type d'événement.
Nathalie Moret, il n'est pas l'air à l'aise, hein, Didier Deschamps, avec la question. Il dit tout de même qu'il faut peut-être mettre un terme à tout ça.
Il dit qu'il faut être intransigeant et rendez-vous compte qu'on a quand même eu un urgent AFP cet après-midi quand le sélectionneur de l'équipe de France a annoncé ça en conférence de presse.
Une dépêche importante.
Voilà, ça, je trouve ça quand même un peu léger. Didier Deschamps, c'est juste une star. Il est deux fois champion du monde. C'est quelqu'un dont la parole est quasiment d'or dans le monde du football. Et il me semble que vu la gravité de ce à quoi on assiste depuis plusieurs mois dans les stades de France, peut-être qu'une parole un petit peu plus, un petit peu moins consensuelle et un petit peu plus aiguë et un petit peu plus forte aurait été.
Mais qu'est-ce
sans
que vous
doute
attendiez de
lui? Juste qu'ils disent que c'est un véritable scandale, que ça dure depuis des années et qu'il faut s'arrêter parce qu'aujourd'hui l'époque a changé et que ce qui était acceptable hier ne l'est plus aujourd'hui.
Gilles Bornstein, vous partagez l'avis de Nathalie Moret, pas assez tranché, il faut être plus, on va dire, carré sur cette affaire?
Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que le foot, c'était pas une question de vie ou de mort, que c'était bien plus grave que ça. C'est Bill Shankly, qui était un entraîneur de Liverpool dans les années 70. C'est vrai que le foot, ça déchaîne les passions et que ce qui se passe dans un stade a aujourd'hui une caisse de résonance exceptionnelle. C'est vrai aussi que dès qu'il y a un problème dans la société française, on veut faire une loi, on veut faire un règlement. Les deux ministres, Marlène Schiappa et Roxana Maricinéanu, ont voulu faire un exemple du foot. Ça va être compliqué, c'est-à-dire que si on veut codifier à ce point-là, ça va être compliqué, il va falloir décider ce qui est une insulte homophobe et ce qui ne l'est pas, mais si on fait une liste, tout ce qui ne sera pas considéré comme insulte homophobe ou raciste sera de facto autorisé, donc ça, ce qui seront des insultes tout aussi graves, on aura le droit. Par exemple, au Parc des Princes, il y a deux mois, dans un match PSG-Marseille, il y avait « ce sont tous des rats, ce sont des Marseillais ». C'est ni raciste ni homophobe, je suis un supporter parisien. Mais franchement, « ce sont tous des rats, c'est tous des Marseillais », c'est pas terrible non plus.
Donc ça. Mais qu'est-ce que vous dites alors qu'il ne faut rien faire?
C'est du non, vous
êtes dans le camp folklore,
non, pas
c'est
du
ça
tout. Je dis que c'est très bien d'interdire, je dis qu'il faut faire, je dis qu'il faut être sévère, je dis juste que ça va être très compliqué, et je dis aussi que, là on parle d'homophobie, mais que je pense que les dérives racistes sont beaucoup plus graves que les dérives homophobes, et j'ai l'impression qu'on est moins dur avec les dérives racistes qu'avec les dérives homophobes, et évidemment je ne fais pas de hiérarchie entre la gravité des deux.
Arnaud Gonzague, faut-il...
Il y a une différence quand même entre les dérives racistes et les dérives homophobes, c'est que quand par exemple des supporters font un cri de singe quand un joueur noir est sur le stade, ils s'adressent directement à ce joueur-là. Je ne sais pas si c'est plus grave, en tout cas, il y a effectivement une forme de racisme. Là, ce qui est un peu compliqué, et ce qui peut-être dans certains milieux nécessite un peu de pédagogie, c'est qu'effectivement, les supporters qui disent des mots homophobes fondent l'homophobie, ça c'est incontestable, mais sans s'adresser, sans traiter directement une personne qui est homosexuelle. Exactement. Ce qui est très compliqué à expliquer, c'est qu'on se met encore en 2019 à dénigrer le camp d'en face, ou l'arbitre, ou le Gaulle, avec, en le traitant d'homosexuel. Alors c'est pas avec ces mots-là qu'on le traite. Ça c'est vraiment problématique.
Arnaud Gonzague, il faut sanctionner ou il faut dialoguer?
Il faut absolument sanctionner. Moi je me réjouis qu'effectivement les sanctions enfin soient tombées, parce que, contrairement à ce que dit Gilles, il y a pas besoin de créer des lois. L'homophobie c'est interdit en France, c'est sanctionné par les lois, et on sait très bien par quoi ça passe. Et moi je serais favorable plutôt qu'il y ait des suspensions de tribunes ou des choses comme ça, que les sanctions contre les auteurs des insultes homophobes, ceux qui tiennent la banderole, ceux qui crient, soit forte.
Véronique Reilsoult, sur les réseaux de Dentsu Consulting, qu'est-ce qu'il est dit de cette polémique qui est partie de plus belle hier soir?
D'abord, j'aimerais bien que ce soit mes réseaux, mais ce sont plutôt les réseaux sociaux, les réseaux globalement. La réalité, c'est que j'ai plutôt été regarder ce que disaient les supporters. Parce que si vous regardez sur Twitter, qui est globalement pas forcément là où sont les supporters, tout le monde est d'accord et il y a une forme de consensus. C'était plus aller regarder là où sont les supporters et ce qu'ils disent. Et les supporters, en fait, il y a deux points qui les énervent. Le premier, c'est la mise en demeure et l'impression qu'on leur dit ce qu'il faut faire, même s'ils sont conscients qu'il faut changer les choses. Et il y a une initiative aujourd'hui de la Ligue de football qui est très saluée par les supporters, où en fait, ils ont annoncé qu'ils vont mettre en place des réunions avec les associations et les groupes de supporters, qui sont finalement ceux qui peuvent changer les choses. Et les uns et les autres disent finalement consultation, concertation, c'est certainement ainsi qu'on arrivera à faire des choses. Sinon, on va jouer au chat et à la souris indéfiniment, comme ça s'est passé là, parce que la banderole qui dit ils sont tous gays écrit différemment, c'est une façon du.
Il faut la rentrer quand même, cette banderole. Moi, les images m'ont choquée, non pas simplement parce qu'il y avait des propos homophobes dessus, mais ces deux banderoles sont absolument immenses. On sait tous aujourd'hui que.
Il faut l'introduire dans l'enceinte du stade.
Il y a une forme. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut aussi.
Il y a une responsabilité des clubs, c'est évident.
Mais clairement,
c'est en fait ce qui est intéressant. Que les clubs devraient balayer devant leur porte, c'est ça?
Oui.
Effectivement,
moi à qui il arrive d'aller au stade assez souvent, une bouteille en plastique, vous êtes fouillé, vous pouvez pas la rentrer. Là, cette banderole qui faisait 30 mètres de long, elle est passée et il y en avait plusieurs. Donc les clubs, on le sait, les clubs ont besoin des supporters, les clubs ont besoin des ultras. Donc ils protestent d'un côté et ils ferment les yeux de l'autre. Il faut sanctionner, évidemment, il faut empêcher ça. Vous avez raison, l'homophobie est un délit, le racisme est un délit. Maintenant, le foot est un sport populaire. Le foot doit rester un sport populaire. Comme je le disais tout à l'heure hors antenne, le foot, c'est pas le Bolchoï. Ça le sera jamais. Il faut que le foot puisse rester un espace de liberté. Il y a une culture du clash. Il y a une culture des supporters qui se clashent entre eux. Il faut arriver à un moyen qu'ils se clashent.
Vous êtes à peu près d'accord sur
ce qu'il faudrait peut-être éventuellement mettre en place pour éviter que cela se reproduise. On va rester un petit peu sur ce sujet avant de revenir au sondage au Doxa. Mais tout d'abord, 20h10 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Julie Smul.
Le tirage au sort ce soir des phases de groupe de la Ligue des Champions. Tirage compliqué pour Lille qui affrontera Chelsea, l'Ajax Amsterdam et Valence. Ça s'annonce musclé aussi pour le PSG qui tombe dans le groupe du Real Madrid. Tirage plus simple en revanche pour Lyon qui se retrouve notamment face au Zénith Saint-Pétersbourg. Enquête ouverte à Nice après les chants et les banderoles homophobes déployés hier dans les tribunes de l'Alliance Riviera. Le match contre Marseille interrompu par l'arbitre pendant 12 minutes. Patrick Buisson annonce sur France Info qu'il va demander l'annulation de la procédure. On apprend aujourd'hui qu'il est renvoyé en correctionnel dans l'affaire des sondages de l'Élysée. Même chose pour 5 autres proches de l'ancien président Nicolas Sarkozy, poursuivis pour favoritisme, détournement de fonds publics par négligence ou abus de biens sociaux. C'est donc probablement un nouveau féminicide en France. Une femme de 30 ans tuée d'un coup de fusil hier dans la Vienne. On apprend aujourd'hui qu'elle avait porté plainte contre son ex-compagnon pour menaces et harcèlement. Son ex-compagnon qui est ce soir en garde à vue. Un premier avion bombardier d'eau financé par l'aide d'urgence du G7 se dirige en ce moment vers le Paraguay pour aider à lutter contre les incendies en Amazonie, annonce ce soir de la présidence française. Et puis il avait cette capacité incroyable de pouvoir passer de Feydeau à Shakespeare. L'acteur Jean-Michel Ribes rend hommage sur France Info ce soir à Michel Aumont. Le comédien est mort la nuit dernière, il avait 82 ans.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Interrogé sur l'homophobie dans les stades, voici ce qu'en disait tout à l'heure Gabriel Attal, le secrétaire d'État à la jeunesse, invité du 18-50 sur France Info.
Ça ne peut que susciter l'indignation. Et vous parliez tout à l'heure de nouveaux fléaux. Je ne sais pas s'il est particulièrement nouveau. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a une prise de conscience qui est nouvelle et qui irrigue y compris le secteur du football, du sport. On entendait l'expression à l'instant de Patrick Vieira. On voit qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience très forte et il est temps d'agir.
Que dites-vous sur ce que déclare Gabriel Attal, Gilles Bronstein?
Non, Julie tout à l'heure a dit que Lyon allait jouer contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Oui. Au Zénith Saint-Pétersbourg, il y a un joueur qui s'appelle Malcolm, qui vient de Bordeaux, qui est brésilien et noir, qui vient d'être transféré. Les supporters du Zénith Saint-Pétersbourg, qui sont pas des idiots comme il y en a en France, qui crient des propos homophobes sans se rendre compte qu'ils sont, qui eux sont des nervis, fachos, adeptes de la Russie blanche. Ils ont exigé que ce joueur parte parce qu'un joueur du Zénith ne peut pas être noir. Et le président du Zénith va vraisemblablement être obligé, effectivement, de faire partir ce joueur. Ça, je trouve ça absolument gravissime.
Et sur les, sur ce que disent Arnaud Gonzague, les politiques, au fond, on a l'impression que c'est un sujet qu'ils abordent de façon un petit peu généraliste.
Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est... C'est typiquement le genre de réaction qui exige... un peu de temps. Il faut un peu que la société, toutes les couches de la société s'emparent de ça. Dans les cours de récré, aujourd'hui, on se traite encore d'enculé, on se traite encore de pédé, pour dire simplement qu'on s'aime pas, quoi. Sans qu'il y ait aucune allusion à la sexualité de la personne qui est visée. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens, et je fais absolument pas l'amalgame avec tous les supporters de foot, évidemment, qui sont une minorité, qui encore emploient ces mots-là pour dénigrer le camp d'en face, les gens d'en face. Ça, c'est une réalité qui est lente, qui mettra du temps avant de s'imposer. Et effectivement, dans un premier temps, il est très possible que les gens dans les tribunes prennent ça comme un défi à relever, quoi. C'est-à-dire que plus on va nous l'interdire et plus on va le faire. Ça aussi, c'est une cour, un peu la cour de récré. Mais ce qu'il faut penser et espérer, c'est qu'à terme, ça finisse par être totalement inacceptable.
Oui, effectivement, il faut prendre effectivement le sujet à tous les étages. D'ailleurs, Gabriel Attal insistait tout à l'heure sur le fait de devoir faire de la pédagogie, peut-être très tôt dans les écoles. Encore un mot là-dessus, oui, Véronique Reilsoult.
Le dernier point que j'avais pu voir et qui rejoint ce que vous disiez, qui est la demande d'exemplarité des footballeurs, parce qu'ils admirent les footballeurs, et si ça vient des footballeurs, ça passe beaucoup mieux que si ça vient d'un politique. C'est-à-dire que les supporters ont envie d'être en harmonie avec leur club, ont envie d'être en harmonie avec leurs footballeurs, après pas forcément en harmonie avec le camp adverse, mais si les footballeurs eux-mêmes ont un propos pédagogique, ça passera forcément mieux que Absolument. Si ce sont les politiques et mieux que oui. si on est en train de leur donner une règle qu'ils ont envie.
Il y a peu de joueurs qui condamnent l'homophobie. Hein. Il y a Antoine Griezmann qui s'est déclaré contre l'homophobie, qui a fait la une d'un journal homosexuel qui est têtu. Ils n'étaient pas très nombreux. Non, ils sont encore pas très nombreux.
Là, c'est la mérite d'une forme de mobilisation. C'est pour ça que c'est intéressant, plutôt que se dire une sanction qui donne envie de.
Allez, le mot de la fin avec vous, Gilles Bronstein.
Les propos de Didier Deschamps dont vous parliez sont quand même très importants. Comme vous l'avez dit, c'est un dieu du foot. Il est champion du monde comme joueur, champion du monde comme entraîneur. Que Didier Deschamps prenne position aussi clairement, c'est quand même assez important.
Il aurait pu l'être Nathalie davantage. Morée. Honnêtement, dire il faut être intransigeant avec l'homophobie dans les stades, c'est quand même un petit peu léger.
Allez, on en vient à la rentrée de Blanquer, sanctionné sur la réforme des lycées, même si l'opinion approuve la plupart des réformes, selon notre enquête Odoxa Dentsu Consulting pour France Info, Le Figaro, réalisée hier et aujourd'hui auprès d'un millier de personnes par Internet. La cote de popularité de Jean-Michel Blanquer est en chute libre. C'est ce que nous révèle Gaël Slimane, le président d'Odoxa.
Et on a aujourd'hui une majorité de Français qui a une mauvaise opinion de Jean-Michel Blanquer. C'est pas beaucoup, c'est une courte majorité, mais c'est une majorité quand même. 54% ont une mauvaise opinion de lui. Ça consacre un renversement de tendance spectaculaire quand même. Plus 17 points dans les mauvaises opinions, moins 16 points pour les bonnes opinions. Désormais, Blanquer est un ministre qui clive, qui mécontente les sympathisants de gauche et ceux du Rassemblement National notamment.
Alors avant de sortir la boîte à chiffres, Véronique Reilsoult, arrêtons-nous un instant sur le sort du ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce qui se passe? Que dit l'enquête?
L'enquête dit que globalement, il est moins populaire, et il est moins populaire parce que, évidemment, tout ce qui s'est passé avant l'été, et en particulier l'ensemble des actions qu'il y a eu avec les résultats du bac et les relations qu'il a eues avec les enseignants, ont certainement terni dans l'opinion publique son image.
Parce que c'est moins 16 points en un an et demi. Hein.
Ouais. Après, moi, j'aime bien toujours faire le parallèle forcément avec ce que peuvent exprimer les gens plus spontanément. Donc, c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout comme dans un sondage que ça fait, qui est représenté représentatif de la population française, c'est juste significatif, mais c'était intéressant de voir aussi qu'il y avait une forme de confusion, et c'est sans doute ainsi que moi je comprends et j'interprète ce chiffre, c'est la confusion dans la réalité de ce qu'est cette réforme, de ce que on va vraiment avoir, et en particulier on voyait des témoignages assez concrets où les uns et les autres se demandent finalement quelle est la bonne orientation, puisqu'il n'y aura plus pour le bac en particulier de filières spécifiques, et du coup on ne sait pas quels sont les critères pour rentrer dans l'enseignement supérieur. Ça donne un sentiment de flou, ça fait peur, et quand on a peur on est souvent en colère, en tout cas c'est une réaction assez commune, et donc ça peut expliquer aussi cette baisse dans le...
Alors justement, dans le même ordre d'idée, Nathalie Moret, cette baisse, pour poursuivre ce qu'avance hein, Véronique Rel-Soult, est-elle la conséquence de la réforme emblématique du baccalauréat, du lycée on va dire, ou bien du contexte général?
Je pense que ça participe aussi beaucoup du contexte général. J'en veux pour preuve le changement de ton de Jean-Michel Blanquer, qui était beaucoup plus cassant, sec, maître d'école jusqu'à la précédente rentrée scolaire, et qui cette année-là, on l'a vu lors de sa conférence de presse il y a deux jours, il parle de concertation, il ouvre sa porte aux syndicats, il dit qu'il écoute, il a d'ailleurs reçu les syndicats, il parle enfin il a des mots extrêmement beaucoup plus ronds qu'avant, comme l'ensemble du gouvernement. Cette rentrée scolaire, c'est la première après la crise des Gilets jaunes, c'est la première après que autant de défiance se soit exprimée vis-à-vis de toutes les autorités en règle générale, et l'école en est une. Donc effectivement, on voit qu'il est beaucoup plus coulant. Effectivement, on arrive après l'épisode du baccalauréat où il se prend beaucoup de il y a beaucoup de réclamations, et effectivement, ça va être probablement un petit peu un moment difficile pour lui. Mais je pense qu'il faut quand même replacer ça dans un contexte général, parce que la réforme du bac, faut pas oublier qu'elle était souhaitée par un maximum de Français. Le bac, aujourd'hui, il se démonétisait et il y avait une réforme nécessaire. Et effectivement, vous avez raison, Véronique, je pense que cette réforme du bac est pour l'instant assez méconnue. On sait qu'il y a une réforme du bac, mais on ne sait pas précisément ce qu'il y a dedans.
Arnaud Gonzague, c'est un problème justement de pédagogie, une fois de plus.
Ah, c'est un problème de stratégie. C'est que Jean-Michel Blanquer, depuis 2 ans qu'il est aux affaires, fait semblant de ne pas faire de réforme. C'est très rare. En général, les ministres, vous savez, ils vous annoncent toujours la réforme majeure des 5, des 10, des 20 dernières années, et ils font pas grand-chose. Lui, c'est le contraire. Depuis le début, il avait même pas envie de faire une loi. Il a été obligé de faire une loi. Il voulait même pas faire une loi. Et sauf que c'est une réforme qui est assez ambitieuse. Pour le dire très vite, c'est la fin des trois, en tout cas dans le lycée général, des trois filières L, E, S, S, pour faire une réforme à la carte, c'est-à-dire que chaque élève peut choisir à la carte ce qu'il a envie de faire. C'est pas rien, ça suscite effectivement une forme d'inquiétude. Où sont les maths? Qu'est-ce qu'ils feront après le bac? Est-ce que les grandes écoles ou l'université après le bac seront prêtes à suivre des cursus, des mélanges comme ça de cursus un peu étranges? Alors, c'est une réforme qui est pensée pour les bons élèves.
Allez, les bons élèves. Vous êtes tous les quatre d'ailleurs des bons élèves ce soir. Nous allons poursuivre dans le cœur du sujet avec notre enquête Odoxa Dentsu Consulting sur évidemment les réformes qui vont et celles qui déplaisent finalement aux Français. Dans un instant, 20h20 sur France Info. Rappel de l'info tout d'abord avec vous, Julie Smul.
À quelques jours de la rentrée scolaire, la popularité du ministre Jean-Michel Blanquer s'effondre. 46% des Français ont une bonne opinion de lui contre 62% il y a un an et demi. Résultat de notre sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info. L'essentiel, c'est d'agir, le défend aujourd'hui sur France Info Gabriel Attal, son secrétaire d'État. L'affaire des sondages de l'Élysée pourrait déboucher sur un procès en 2020. 6 proches de l'ancien président Nicolas Sarkozy sont renvoyés en correctionnel. Parmi eux, Claude Guéant et Patrick Buisson. Le premier est poursuivi pour favoritisme et détournement de fonds par négligence. Le deuxième notamment pour recel de favoritisme et pour abus de biens sociaux. Le parquet de Nice ouvre une enquête après les chants et les banderoles homophobes hier soir dans les tribunes niçoises. C'était pendant le match de Ligue 1 contre Marseille. Débordements qui ont provoqué une interruption de jeu de 12 minutes. Le foot avec Strasbourg qui joue en Ligue Europa ce soir. Match retour des barrages contre Francfort. Coup d'envoi dans 10 minutes à 20h30. En Ligue des Champions, on connaît maintenant les adversaires des Français. Ce sera le Real Madrid, Bruges et Galatasaray pour le PSG, Zénith Saint-Pétersbourg, Benfica et Leipzig pour Lyon. C'est beaucoup plus compliqué pour Lille qui se retrouve face à Chelsea, à l'Ajax Amsterdam et à Valence. La mort la nuit dernière du comédien Michel Aumont, 82 ans, 60 ans de carrière au théâtre et beaucoup de second rôle au cinéma.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Véronique Reilsoult de Dentsu Consulting. Allez, les chiffres avec vous sur la réforme dans le détail. Il y a des mesures qui ont été prises qui cartonnent, si je puis dire. 24 élèves maximum dans les classes CPCE1, 89% d'acceptation. Ouais. Quelles sont les autres données?
Alors en fait, il y a une autre mesure qui est plébiscitée aussi à 75%, c'est le dédoublement des classes de grandes sections de CP et de CE1 dans les zones défavorisées. Globalement, on va dire qu'il y a un plébiscite pour la plupart de ces réformes. Et aussi sur une des réformes du bac, puisqu'il y a 71% des gens qui disent 40% de contrôle continu au bac et moins des postes,
une bonne
c'est très
chose.
Bien.
Oui.
Mais, juste à côté, ils disent, ouais, mais la suppression des fameuses filières S, ES et L, là, c'est que 45% d'approbation. Et ça doit, c'est là où on comprend la complexité finalement de l'histoire, qui est, oui, bien sûr, il faut réformer. Quand ce sont des réformes qui vont dans un sens où on est certain que ça améliore la qualité de l'enseignement, là, ça va. Alors que sur les autres, dès que c'est un peu flou, qu'on comprend pas, globalement, les Français ont plutôt l'impression que ça va pas améliorer. Et il y a des chiffres qui sont assez parlants, puisqu'on a 53% des Français qui disent, les réformes, finalement, elles donnent pas l'impression que l'enseignement sera meilleur. Et quand on creuse un peu, vous avez 66% des ouvriers qui ont cette impression et 63% des salariés du public. Donc, l'impression que, oui, il y a des réformes, les trois quarts des réformes, dès qu'elles ont une finalité qui est lisible, on est d'accord, mais dès que c'est un peu plus compliqué et que ça demande plus d'explications, plus de pédagogie et sans doute plus de concertation avec les enseignants pour qu'ils puissent l'expliquer à leur tour aux élèves et aux parents d'élèves, forcément, c'est plus dur.
Et puis, il y a les revendications dont il n'est jamais vraiment question, celle des salaires des enseignants. Une hausse de 300 euros en moyenne l'an prochain, ce n'est pas grand-chose, nous a dit Jean-Rémy Girard, le président du SNALC, le Syndicat national des lycées et collèges.
C'est un ciné, une pizza. Voilà. Donc, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut véritablement qualifier de revalorisation. C'est absolument ridicule. Hein. Pour donner un exemple, aujourd'hui, un professeur des écoles français est deux fois moins payé qu'un professeur des écoles allemands. Donc, même 300 euros par mois, ça ne suffirait pas à rattraper notre retard.
Voilà, le syndical, le SNALC, non pas le snack, mais comme il nous dit, un ciné, une pizza. Arnaud Gonzac, c'est le cœur du problème quand même, le salaire des profs.
C'est le cœur du problème, et c'est toujours le problème quand on fait des augmentations de salaire, c'est que si elles sont perçues comme pas très conséquentes, 300 euros par an, d'une certaine manière, ça se retourne presque contre le ministre. C'est vrai que les professeurs français n'ont pas des salaires très gras, c'est quelque chose qui est très connu. On sait qu'ils sont dans des conditions de travail qui sont pas faciles et qui sont plutôt plus difficiles au fur et à mesure que les années passent. Donc, un ministre, dès qu'il s'attaque aux questions d'argent, qui sont très complexes parce qu'il y a évidemment une masse salariale extrêmement importante dans l'éducation nationale, dès qu'il saupoudre, ça se voit, quoi, qu'il a l'air de saupoudrer.
Nathalie Moret, dans la presse, on va dire, de chez Ebra, dans le groupe, dans tous ces journaux qui couvrent l'Est de la France, que disent au fond vos lecteurs sur cette réforme de l'éducation nationale?
Ah, ils sont tout à fait conformes à ce que disait Véronique. Hein. Clairement, on a... quand Odoxa dit que la cote de la popularité du ministre Blanquer s'effondre, moi je mettrais juste un bémol, parce que d'abord, ça reste quasiment à 50%, hein, 46, quelque chose comme ça, donc ça reste quand même un des ministres du gouvernement qui reste le plus identifié, et il n'y en a pas tant que ça. Et ensuite, les lecteurs des journaux pour lesquels je travaille sont très sensibles au dédoublement des classes dans les quartiers sensibles. Ils regrettent que ce ne soit pas toujours le cas dans les milieux les plus ruraux des territoires. Ouais. Ça, en règle générale, c'est effectivement le cas. Mais c'est quelqu'un qui est plutôt assez bien perçu pour une raison simple, c'est qu'il est arrivé en disant « je veux que les élèves sachent lire, écrire et compter à la fin de l'école primaire », et ça, c'est quelque chose qui a extrêmement cranté dans l'opinion. Jean-Michel Blanquer, quand on dit qui c'est, c'est quelqu'un qui est identifié et qui est identifié pour ce genre de choses. En ce qui concerne la réforme du baccalauréat, pour l'instant, il y a assez peu de retours sur ce thème-là, sur nos sites internet en tout cas. J'y vois le reflet de l'incompréhension de cette réforme, en tous les cas quelque chose qui n'est encore pas très très certain et surtout qui n'est pas en place. Je pense qu'on pourra faire le bilan de ce que les gens en disent d'ici 2 ans.
Et conséquence de cette défiance que nous avons décrit avec vous, Véronique Reilsoult, dans le sondage, à une courte majorité de Français, c'est 52%, estiment que d'éventuelles grèves des enseignants en septembre seraient justifiées. C'est un risque vraiment, Gilles Bornstein, chaque fois on spécule à chaque rentrée sur le grand soir.
Je trouve ce chiffre totalement sidérant, parce que ça montre que les Français sont prêts à faire grève quand ils sont contre, enfin, sont prêts à accepter une grève quand ils sont contre, mais ils sont prêts aussi à accepter une grève quand ils doutent, quand ils ne savent pas vraiment. Parce que tout le reste du sondage nous dit que les Français, ils sont comme nous tous, ils savent pas trop ce que ça va donner. Ils sont dans l'incertitude. Généralement, quand on est dans l'incertitude, on attend de voir. Et puis après, si ça se passe mal, éventuellement, on accepte une grève. Mais quand au début, quand au printemps, au moment du bac, les profs avaient fait la grève de la correction, on avait senti un fort mouvement d'impopularité et on se disait là, quand même, ils vont pas avancer dans l'opinion. Et que 2 mois après, les mêmes Français se disent « oui, on pourrait comprendre une grève », nous, journalistes, nous sommes censés comprendre la société française. Là, j'avoue que ça me surprend un peu.
Allez, 70% des Français qui étaient contre la grève. 70% au mois de juin, des Français désapprouvaient la grève. Et aujourd'hui, on voit que c'est complètement
indépendant. Ils seraient prêts à la trouver justifiée. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'ils seront confrontés à cette réalité...
C'est
voilà.
quand même énorme.
Mais c'est quand même beaucoup.
La grève, la grève. L'enquête, pardon, sur la rentrée de Jean-Michel Blanquer, donc à découvrir ou à redécouvrir sur notre site franceinfo.fr. 20h28 sur France Info, nous marquons une courte pause et on se retrouve pour la deuxième partie des informés.
Vis-à-vis, Fernand Léger et ses amis, une exposition au Musée National Fernand Léger avec France Info. Peintre, sculpteur, poète et architecte, de Calder à Robert Delaunay, en passant par Matisse et Picasso, l'exposition est consacrée aux échanges amicaux et artistiques que Fernand Léger entretient avec ses contemporains tout au long de son parcours artistique. Vis-à-vis, Fernand Léger et ses amis, jusqu'au 23 septembre au Musée National Fernand Léger à Biot, sur la Côte d'Azur, près d'Antibes, en partenariat avec France Info.
Politique,
enquête,
sport,
invité,
culture,
interview,
économie. Pour l'info 24h sur 24, France Info, et tout est plus clair. France Info Météo, avec Gauthier, séjour, salon, chambre et dressing. Le mobilier pour toute la maison à retrouver dans nos magasins et sur gauthier.fr.
Les prévisions météo avec vous, Elodie Calac pour Météo France.
Une belle journée d'été demain, beaucoup de soleil partout le matin, juste quelques nuages bas vers la côte landaise et le Pays Basque, de la Bretagne vers la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, un soleil légèrement voilé. Ce petit voile nuageux glissera vers Poitou-Charentes, la région parisienne et les Ardennes l'après-midi, sans gâcher l'impression de beau temps. L'après-midi, des nuages se développeront également près du relief sous l'effet de la chaleur. On ne sera pas à l'abri d'une averse sur les Vosges, le massif central, des orages éclateront sur les Pyrénées, la Corse et aussi du Jura vers les Alpes et l'intérieur de la Provence. Les températures seront contrastées le matin, parfois fraîche au nord, mais trop élevée au sud. 9 degrés à Cherbourg, 10 à Reims et à Brest, contre 19 à Lyon, à Bordeaux, 23 à Nice et Perpignan. L'après-midi, ça montera 23 degrés à Cherbourg, 28 à Paris, 29 à Nantes, 31 degrés à Nancy, à Lyon, 33 degrés à Nevers, Limoges et Marseille, et jusqu'à 37 degrés à Nîmes.
20h30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Du football et le Paris Saint-Germain, Lyon et Lille fixés sur leur sort en Ligue des Champions. Et Bruno Salomon, c'est le PSG qui tire le gros lot ce soir.
En prenant en effet le Real Madrid, le PSG se retrouve dans la poule A avec l'équipe entraînée par Zinedine Zidane, 13 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Les Madrilènes complètent la poule, les Turcs de Galatasaray et les Belges de Bruges. Le PSG a connu des tirages plus difficiles et se retrouve donc favori de ce groupe A. Lille, de son côté, deuxième de Ligue 1 la saison dernière, décroche une très belle poule H avec les Anglais de Chelsea, les Espagnols de Valence et surtout l'Ajax d'Amsterdam, demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions. Ça va être difficile pour le LOSC de sortir de cette poule, mais sait-on jamais. Enfin, Lyon a sur le papier eu de la chance au tirage en héritant des Russes de Saint-Pétersbourg, des Portugais de Benfica et des Allemands de Leipzig. L'OL est clairement favori de son groupe. Première journée des poules de cette Ligue des Champions, c'est le 17 et 18 septembre prochain.
À Bruno Salomon et puis à mot de tennis, Grégoire Barrère éliminé dès le deuxième tour de l'US Open. Le Français n'a pas pesé lourd face au Belge David Goffin, victorieux en 3-7, 6-2, 6-2, 6-2 et seulement 1h26 de jeu. Dans le tableau féminin, Fiona Ferro remporte le duel franco-français français du deuxième tour à Flushing Meadows en battant Kristina Mladenovic. Près de 10 ans après, plusieurs anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy, dont l'ex-ministre Claude Guéant et le conseiller Patrick Buisson, sont renvoyés en correctionnel dans l'affaire des sondages de l'Élysée. Au total, 6 personnes sont concernées, poursuivies notamment pour favoritisme, détournement de fonds publics ou encore abus de biens sociaux. Ils étaient en grève depuis fin juin à l'appel de 7 syndicats. Les sapeurs-pompiers prolongent leur mouvement pendant 2 mois supplémentaires, jusqu'à fin octobre donc. Mais le service minimum continuera d'être assuré. Les pompiers qui réclament notamment une hausse de leur prime de feu. C'était une star discrète du cinéma où il avait excellé dans des seconds rôles, mais un géant du théâtre, le comédien Michel Aumont, est décédé. Il avait 82 ans. À l'étranger, beaucoup doutent de son efficacité, mais le décret du président Jair Bolsonaro interdisant temporairement les brûlis agricoles au Brésil est entré en vigueur ce jeudi. Il s'agit de tenter d'enrayer la progression des feux dans la forêt amazonienne. Les négociations entre les États-Unis et les talibans entrent dans leur dernière ligne droite. En cas d'accord, Donald Trump annonce que 8600 soldats américains sur plus de 13 000 actuellement resteront dans un premier temps stationnés en Afghanistan. Et puis l'ouragan Dorian se renforce encore dans les Caraïbes après être passé au nord de Porto Rico. L'état d'urgence a été décrété en Floride qu'il devrait toucher à la fin du week-end. Les Bahamas sont concernés également.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Avec nos 4 experts, Nathalie Moret, journaliste politique au bureau parisien du groupe Ebra, avec Véronique Reil-Soult, directrice générale de Dentsu Consulting, Arnaud Gonzague, co-chef du service société à l'Obs, et Gilles Bornstein, éditorialiste sur France Info. C'est un auteur de best-seller qui est allé plancher ce matin à la rencontre des entrepreneurs de France, du MEDEF à Longchamp, un retraité de la vie politique, du moins c'est lui qui l'a affirmé.
Moi je ne fais plus de politique. Je ne fais plus de politique en ce sens que je n'ai plus d'ambition élective, électorale. Mais je suis ancien chef de l'État, c'est normal que je... Vous m'invitez gentiment, je viens, ça m'intéresse. Mais c'est une chose de participer à un débat, c'en est une autre d'avoir une volonté politique. Je n'ai pas de volonté politique, je n'en ferai plus. Et pour moi, c'est un passé que j'ai beaucoup aimé, mais c'est un passé.
Gilles Bornstein, vous avez vu, il y a des éclats de rire quand il dit « je ne fais plus de politique ».
Bah, il le fait exprès, hein. Il a beaucoup de talent pour faire semblant de faire rire à ses dépens, alors que c'est exactement l'effet qu'il cherche pour bien nous montrer qu'il est toujours là et qu'il faut tomber avec lui. Alors est-ce qu'il est sincère ou pas ? Ses proches le disent heureux comme ça, il est content, il voyage, il gagne de l'argent, il voit sa famille, il est reçu partout, il voit tous les chefs d'État du monde entier, comme s'il était encore chef d'État, parce qu'effectivement il est ancien président de la République française. Est-ce qu'il ne veut plus de mandat électif ? J'ai rien d'original à dire, sauf qu'on sait qu'il est le recours et que l'espèce de vacances, de béance, de cataclysme de la droite aujourd'hui fait qu'ils vont bien falloir trouver un leader et qu'ils n'en ont pas énormément. Et donc, comme m'a dit Brice Hortefeux un jour, un grand fauve ne sera jamais herbivore, et que lui, on sait qu'il est carnivore et qu'il le restera toute sa vie. Voilà.
Alors, plus de politique, pas de volonté, c'est le passé, faut-il le croire, Nathalie Moret ? Il vend des livres.
Moi, je pense qu'il faut le croire, parce que Nicolas Sarkozy, certes, je suis d'accord avec vous, Gilles, on ne change pas les rayures du zèbre. La politique, c'est sa vie, c'est son ADN, il en fera toujours. Mais il en fera toujours comme il en fait là, comme il en fait Miroménil, où il reçoit le tout Paris de la politique. Ouais. Non, il a déjà tenté de revenir, ça a été un échec monumental, et c'est bon. Là, il a compris qu'effectivement, il fallait qu'il soigne son image, qu'il apparaisse un petit peu comme un grand sage qui donne des conseils, mais en aucun cas qu'il revienne dans l'arène politique. Ce qu'il a fait ce matin au MEDEF, c'est juste ce qu'il adore faire. Il adore faire le show. Et Nicolas Sarkozy, il faut comprendre quelque chose pour cerner le personnage, c'est un affectif. Il aime... qu'on l'aime. Et c'est même quasiment sa faiblesse. Il aime qu'on l'aime, il est toujours très à l'aise dans ce genre d'exercice. Et il en fera souvent, hein. C'est exactement quand il fait des conférences à l'étranger, il est aussi dans cette espèce de jeu, quasiment de comédien avec l'auditoire qui le reçoit.
Il a toujours fait ça. Hein.
Ouais, toujours fait ça. Ça ne l'empêche pas non plus de dire un certain nombre de choses qu'on retient moins aujourd'hui, parce qu'on retient plus les sourires, mais sur la politique internationale, il a dit des choses ce matin.
Véronique Reil-Soult.
Ce qui est clair, c'est que le vrai ou faux, on va dire, le pas de mandat électif national, là, En tout cas, les uns et les autres le croient. Par contre, son champ, si on parle, comme vous le disiez, d'un champ d'expression, c'est le champ international et c'est celui qui lui est le plus associé aujourd'hui. Il faut savoir que comme tous les anciens présidents, forcément, il est plutôt populaire. Quand on regarde sur les réseaux, on parle toujours quand même beaucoup de lui. Mais quand on parle de lui aujourd'hui, on en parle avec une dimension internationale qu'il apprécie, qu'il revendique. Et il y a deux sujets sur lesquels on a plutôt parlé de lui. On va mettre de côté les sujets judiciaires, mais sur les sujets politiques, il y a beaucoup, beaucoup d'informations autour de la démographie, puisque ça devient récurrent. Ce matin encore, régulièrement, il parle du sujet démographique et avec une dimension internationale, c'est assez nouveau et on commence à lui prêter. Donc peut-être que c'est là son nouveau champ. Et puis le dernier point, c'est que il a dénoncé la dictature de l'opinion. Donc forcément, l'opinion a peu aimé et en disant qu'il était courageux et que par moment, il fallait aller au-delà de la réalité de l'opinion que lui-même l'avait fait. Alors c'était il y a 7 ans et les choses étaient différentes, mais voilà. Et donc ça, c'était plutôt commenté. Et c'est son champ d'intervention aujourd'hui qui est un champ peut-être pas politique électif, mais qui est un champ politique.
Vous avez glissé le mot justice, hein, 6 de ses proches, dont Claude Guéant, Patrick Buisson, Emmanuel Mignon, renvoyé en correctionnel dans l'affaire celle des sondages de l'Élysée, mais pas l'ancien président, il faut le préciser. Arnaud Gonzague, son avenir tout de même, sa séquence, elle est aujourd'hui éminemment judiciaire.
Oui, il est quand même plus souvent effectivement dans les pages judiciaires que dans les pages politiques, mais moi surtout, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit ce soir, c'est que Nathalie disait qu'il pouvait jouer facilement le rôle du grand sage. Moi, je ne l'ai pas trouvé très sage. J'ai trouvé qu'il a essayé de faire de l'humour. Bon, on aime ou on n'aime pas ce genre d'humour. Moi, ce que j'ai trouvé assez antipathique dans son intervention, qui n'a pas été mentionné, c'est qu'il a taclé Greta Thunberg, vous savez, cette activiste suédoise, jeune activiste suédoise, qui alerte le monde entier sur la situation climatique, en disant « Ah, elle est tellement sympathique, elle sourit tellement. » D'abord, Greta Thunberg, c'est quelqu'un qui est atteint d'autisme. Donc, je ne crois pas que ce soit extrêmement drôle de se moquer peut-être de ses attitudes. Moi, ça me fait pas rire, en tout cas. Et puis, il dit « Elle est tellement originale dans sa pensée. » Effectivement, dénoncer le réchauffement climatique, c'est pas très original. Mais j'attends pas ça, moi, d'un ancien président.
Et pourtant, il aurait été le président qui aura revendiqué le Grenelle de l'environnement.
Oui, à juste titre, parce que c'est effectivement sous son mandat qu'a eu lieu le Grenelle de l'environnement, qui est important dans l'histoire du climat français, enfin de la lutte écologique française. Mais je trouve là qu'il a manqué un peu de hauteur, parce que cette condescendance-là, elle s'adresse aussi à un certain nombre de jeunes gens qui ont un peu ou prou l'âge de Greta Thunberg, y compris français, et qui vont défiler en disant aux adultes, il y a un
Gilles Bernstein. La cause de l'environnement mérite mieux que cet oracle qui arrive de Greta Thunberg, que ça soit pas son rôle de le dire, mais que cette espèce d'oracle agace, je peux un peu comprendre.
On a toujours envie de se payer des icônes, mais si elle est oracle,
elle vous agace, vous, Gilles Bernstein.
Non, je trouve qu'il y a autour d'elle, cette jeune fille de 15 ans. Qui dit des choses vraies, mais qui ont été dites avant, et que ça soit désormais l'icône mondiale de l'environnement, oui, il m'arrive de trouver ça un petit peu exagéré, oui.
Mais faites partie de ces...
Je pense que c'est une icône, c'est parce qu'elle comble le vide de la génération d'avant.
Et qu'elle dit les choses d'une manière différente. Elle dit les choses d'une manière différente, et c'est pour ça qu'elle imprime autant dans l'opinion. C'est aussi à cause ou grâce à son jeune âge. Et effectivement, c'est pas un hasard si elle est là aujourd'hui.
Allez, transition toute trouvée pour évoquer évidemment la sécheresse dans un instant. Tout d'abord, nous marquons une pause, 20h40 sur France Info, le rappel de l'info. Avec vous, Julie Smul.
Le parquet de Nice ouvre une enquête. Le match de Ligue 1 hier soir contre Marseille interrompu pendant 12 minutes à cause de chants et de banderoles homophobes déployés dans les tribunes. 6 proches de Nicolas Sarkozy renvoyés en correctionnel dans l'affaire des sondages de l'Élysée. Parmi ceux qui sont poursuivis pour détournement de fonds publics ou pour abus de biens sociaux, Claude Guéant et Patrick Buisson. Patrick Buisson qui annonce sur France Info saisir la chambre de l'instruction pour faire annuler la procédure. Ils avaient monté une frontière symbolique anti-migrants dans les Alpes en avril 2018. 3 responsables de l'association d'extrême droite Génération Identitaire condamnés aujourd'hui à Gap, condamnés à 6 mois de prison ferme plus l'amende maximale pour l'association, 75 000 euros. 1 500 000 signatures en bas de la pétition lancée hier matin par les Britanniques. Pétition pour protester contre la décision du Premier ministre Boris Johnson suspendre le Parlement jusqu'au 14 octobre, soit 2 semaines semaines avant la date officielle du Brexit. Des ex-chefs des FARC annoncent aujourd'hui reprendre la lutte armée en Colombie. Ils dénoncent l'accord de paix historique signé en 2016. Bogota se dit ce soir préoccupé, mais pas surpris. Le tirage au sort des phases de groupe de la Ligue des Champions, c'est du foot. Tirage compliqué pour Lille qui affrontera notamment Chelsea, l'Ajax Amsterdam et Valence. Ça s'annonce musclé aussi pour le PSG qui tombe dans le groupe du Real Madrid. Ce sera peut-être un petit peu plus simple pour Lyon qui se retrouve entre autres face au Zénith Saint-Pétersbourg.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous allons parler de l'urgence climatique, de la sécheresse, mais tout d'abord encore quelques mots sur Greta Thunberg avec vous, Véronique Reel-Soult, pour prolonger le propos de Gilles Bornstein. Est-elle populaire ?
Ah ben, elle est très populaire, elle est suivie sur les réseaux sociaux par plusieurs millions de fans dans le monde, tant sur Facebook que sur Instagram. Voilà, chacune de ses postures est commentée, surcommentée. Et là où c'est un signe que c'est aussi une icône, quand elle, par exemple, quand elle publie une image d'un paysage en décrépitude, elle a beaucoup moins d'interactions que quand elle prend un selfie d'elle-même. Où du coup les gens vont avoir
une
interaction.
Vous voulez dire que ses supporters se privilégient le propos, le fond, plutôt que la.
C'est pas forcément ça, c'est qu'elle est une icône. Ouais. Donc en fait, en retweetant ou en partageant sur Instagram ou en commentant ou en likant une image d'elle, c'est une façon pour les uns et les autres de dire ben je la soutiens, je suis d'accord avec elle, plus encore que sur une image. Et d'ailleurs, du coup, elle fait souvent des selfies. Ça lui est souvent reproché en disant ben elle se met en scène. Mais oui, mais en même temps, qui de l'œuf ou de la poule, c'est-à-dire qu'elle le fait aussi parce que c'est comme ça qu'elle arrive à sensibiliser.
Gilles Bornstein, lanceuse. Je ne sais pas si ça se dit, d'alerte très utile finalement au niveau planétaire.
Oui.
Faut-il s'en plaindre ?
Non, il ne faut pas s'en plaindre. Elle est très utile au niveau planétaire, je suis d'accord. On a quand même le droit de faire des remarques et de dire que cette pipelisation de l'environnement et que peut-être que la cause de l'environnement mérite quelqu'un d'autre. Mais c'est la prise de conscience qu'elle permet, c'est très bien. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Allez, l'urgence climatique de la sécheresse. Seuls deux départements y échappent, les Côtes d'Armor, le Morbihan. Didier Guillaume a annoncé la mise en place d'une soixantaine de retenues d'eau. Le ministre de l'Agriculture sur CNews ce matin.
Avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, nous avons fait une instruction arbitrée par le Premier ministre pour à nouveau faire des retenues d'eau. Enfin, on ne va pas regarder l'eau tomber du ciel pendant 6 mois et la chercher les 6 autres mois de l'année. Il s'agit de capter l'eau de pluie, la retenir dans des bassins, dans ce qu'on appelle des retenues collinaires, bref, ouais. Peu importe, pour pouvoir la restituer après dans les sols lorsqu'il y a sécheresse. Là où il y a de l'eau, ou là où on peut irriguer, il n'y a pas de sécheresse. L'agriculture sera résiliente si elle est irriguée.
Alors, Arnaud Gonzague, vous êtes spécialiste des questions d'environnement. Je vous fais un aveu, je n'avais jamais entendu parler de ce principe, ce système des retenues d'eau.
Mais c'est tout récent, c'est tout frais, tout nouveau, parce qu'effectivement, de plus en plus de campagnes, notamment dans le sud de la France, les agriculteurs sont totalement en veine d'eau, et notamment, on voit sur les images là, derrière nous, à cause du maïs. Le problème de la question d'eau, c'est que quand on écoute Monsieur Guillaume, on a l'impression que l'eau de pluie, on va la captée en hiver quand elle tombe dans les réservoirs et qu'on l'utilisera en été. Sauf que c'est pas tout à fait ça la réalité. La réalité, c'est que les forages vont être faits dans le sol. C'est-à-dire que c'est dans les nappes phréatiques qu'on va aller chercher l'eau. Donc ça, il y a un certain nombre d'associations écologistes qui disent attention.
Vous voulez
pas
dire
touche.
Que l'eau de pluie, ce n'est pas le réel, quoi.
Dans les nappes phréatiques. Voilà. Oui. Mais ces réservoirs seront installés et vont être nourris avec de l'eau qui va être prise dans les nappes souterraines. Or il y a un vrai problème en France, c'est que souvent l'eau est liée à une denrée en particulier, qui est le maïs. Le maïs, on le fait pousser. Le problème du maïs, c'est pas tellement qu'il utilise beaucoup d'eau, c'est qu'il utilise de l'eau au mauvais moment, c'est-à-dire où il y en a le moins, en été. Le maïs, vous savez pourquoi on l'utilise, le maïs ?
Allez-y.
On l'utilise pas, on l'utilise un peu pour la consommation humaine. Aux trois quarts, on l'utilise pour la consommation animale. Voilà, peut-être pas les trois quarts, je vous dis une proportion. Mais disons, une écrasante majorité, c'est la consommation animale. Voilà, la consommation excessive des Français de viande fait qu'on arrive à des absurdités comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'eau. Dans le sud de la France, il n'y a pas d'eau en été.
Encore c'est une précision nouveau. Avec vous, parce que vous connaissez ce dossier sur le bout des doigts, Arnaud Gonzague. Si vous nous dites qu'il faudrait réfréner cette consommation du maïs à destination des bétails, hein, et si on entend parler également au fond de la bonne idée qui serait d'abaisser les importations, souvenez-vous, la déclaration du chef de l'État de soja en provenance d'Amazonie, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça ?
Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a beaucoup de rapports qui nous disent ce qu'on doit faire. On le sait, quand on est un petit peu conscient de ces problèmes-là, on mange moins de viande. voilà, il faut manger moins de viande. C'est meilleur, ce sera meilleur pour notre santé, ce sera meilleur pour la planète, parce que en termes de CO2, je vous dis pas ce que ça dépense, notamment le bœuf, et ce sera mieux. D'une manière générale, pour les masses d'eau, la sécheresse qui arrive là, c'est pas une sécheresse accidentelle, il faut le savoir. On dit toujours, la sécheresse de 76, la sécheresse de 89, c'est une tendance lourde, on le sait. Voilà, le réchauffement climatique, il est là, il concerne pas simplement les glaciers en Islande, il concerne aussi la France.
On a bien compris le principe que vous avez détaillé avec beaucoup d'intérêt ce soir. Le problème, c'est que ces projets, on parle des retenues d'eau, donc cette idée qui est émise par le ministre de l'Agriculture, sont régulièrement battus en brèche, attaqués devant des tribunaux administratifs par des associations de défense de l'environnement. Tiens, Nathalie Moret, au fond, c'est chaque fois le même choc des mondes. On a d'un côté une agriculture productiviste, peut-être des décisions prises au niveau de l'État, et de l'autre, il y a les écologistes, il y a la défense nécessaire de l'environnement.
Oui, et puis on voit que, en fait, ce que fait le ministre Didier Guillaume ce matin, c'est qu'il met, un bandage sur une bande de bois, mais presque, c'est-à-dire qu'il s'attaque aux conséquences. Or, on sait tous, et vous le savez mieux que moi, que ce qu'il faut faire, c'est changer de modèle. Il faut moins manger de viande, effectivement. Il faut produire autrement. Mais ça va prendre des années. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, je pense que ce qui s'est passé cet été est fondamental. On a eu quoi? On a eu deux canicules à trois semaines d'intervalle. Ouais. On a pour la première fois des problèmes de pénurie d'eau dans plusieurs départements. Et ça, plus Greta Thunberg, pardon, désolée, mais effectivement, on va en entendre beaucoup parler en septembre à New York. Ça participe d'un changement de mentalité. Et je ne sais pas ce qu'en disent les réseaux sociaux, mais nous, en tous les cas, chaque fois qu'on fait des pages sur ce thème-là, et notamment sur nos zones rurales, ça fonctionne parfaitement. Faut pas oublier de dire, et j'en terminerai par là, que vous parliez des nappes phréatiques. En Bourgogne, dans le nord de la Bourgogne, en Lorraine et un petit peu en Alsace, il y a des problèmes de sécheresse qu'on avait rarement vu. On a les problèmes de sécheresse dans le sud de la France, c'est assez commun, j'allais dire. Par contre, dans les régions de Lorraine, c'est un truc complètement nouveau. Donc tout ça va participer, je pense, à une prise de conscience de la population française qui va se dire, attention, oui, il faut vraiment changer les choses.
Vous diriez, justement, pour répondre à Nathalie Moret, Véronique Reilsoult, prise de conscience?
Prise de conscience réelle, on constate de plus en plus, donc effectivement les articles les plus lus sont souvent ceux qui traitent du climat. Le climat n'était pas un sujet qui était récurrent. Aujourd'hui, c'est un des sujets, je mets de côté le foot, mais un des sujets qui est le plus commenté.
L'accélération est exponentielle.
Exponentielle, et surtout, ça devient un sujet central en fait. Et on constate aussi que les internautes sont de plus en plus experts, se renseignent, commentent. Là, on voyait que justement sur le sujet des retenues d'eau, il y a beaucoup de gens qui se sont renseignés, qui vont voir ce qui se passe à l'étranger. Enfin, les gens deviennent experts, cherchent des solutions. Et en fait, à chaque épisode climatique un peu compliqué, on voit que ça redéclenche un peu plus de motivation, un peu plus d'envie de bouger. Et quand vous disiez que ça va prendre du temps, vous avez beaucoup aujourd'hui d'internautes qui se donnent des conseils pour trouver des solutions, les marches, les pétitions, enfin l'ensemble de ces éléments ne leur semble plus suffisant. Ils ont envie d'être acteurs et donc ils essayent de trouver des palliatives.
Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce qui est dit? Didier Guillaume affirme que les agriculteurs utilisent 30% de moins d'eau d'aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans et s'engagent dans la transition agroécologique. Vrai ou faux, Arnaud Gonzague?
Pour ce qui est de l'eau, je n'ai pas enquêté, donc je ne vais pas répondre sur les propos de Didier Guillaume. Pour ce qui est des pesticides, parce que l'agroécologie c'est aussi ça, c'est malheureusement, hélas, faux. On utilise plus de pesticides qu'avant. Tous les plans qui s'appelaient les plans Ecophyto 1 et 2, qui étaient censés faire baisser de 50% l'usage des pesticides dans ce pays, ont été des coups d'épée dans l'eau.
Allez, on reste sur les questions environnementales dans un instant avec un Premier ministre en visite de terrain à Roubaix. Vous allez voir, 20h50 sur France Info. Tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Julie Smul.
10 ans après le début de l'affaire des sondages de l'Élysée, 6 proches de Nicolas Sarkozy sont renvoyés en correctionnel, notamment Claude Guéant et Patrick Buisson. Alors que la LFP convoque la semaine prochaine les associations de supporters et celles de lutte contre l'homophobie, le parquet de Nice ouvre une enquête aujourd'hui suite aux chants et aux banderoles en tribune niçoise hier soir, c'était pendant le match contre Marseille. Un scandale d'agression sexuelle à la Croix-Rouge des Hauts-de-Seine, un chef d'équipe bénévole visé par 7 plaintes différentes. Il a 37 ans. Ses victimes présumées sont âgées de 17 à 19 ans.
Jean-Michel Blanquer agit, il est en train de transformer notre système éducatif. La phrase de Gabriel Attal ce soir sur France Info. Le secrétaire d'État défend son ministre de l'Éducation nationale alors que sa popularité s'effondre 16 points de moins par rapport à il y a un an et demi. Un rapport alarmant du GIEC, le groupe d'experts de l'ONU sur le climat. Si rien ne change, les cyclones vont se multiplier à partir de 2050, provoquant de plus en plus d'inondations. Le niveau des océans va continuer à monter. Il pourrait faire 280 millions de déplacés. On a appris aujourd'hui la mort du comédien Michel Aumont. 82 ans, 60 ans de carrière, beaucoup de second rôle. Sauf que quand il était là, c'était forcément lui le premier rôle. Hommage de l'acteur Jean-Michel Ribes ce soir sur France Info.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
L'écologie au quotidien, Édouard Philippe, s'est déplacé en délégation à Roubaix sur une expérimentation dite zéro déchet. Le Premier ministre à la découverte des vertus de l'écologie souriante.
Il y a quelques instants, nous étions ici dans une famille de parents, deux enfants, qui a fait le choix, il y a maintenant 3 ans, de basculer dans cette logique de zéro déchet. Et c'était très intéressant parce que, comme l'a souligné à juste titre le maire de Roubaix, on est là dans une écologie qui est une écologie souriante. Donc c'est toute une logique intéressante. Alors il ne s'agit pas de dire tout le monde doit vivre comme cela, mais il s'agit de dire que c'est possible.
Et Gilles Bornstein, notre Premier ministre, découvre les vertus de l'écologie.
Ah oui, c'est les miracles de la politique. Ce Premier ministre, dont on sait qu'il est d'une culture productiviste, qu'il a été lobbyiste pour Areva, qui tout d'un coup se convainc que l'écologie devient quelque chose de tellement important qu'il faut même en faire de l'écologie souriante. On voit que la situation politique du pays a changé et que les priorités politiques du gouvernement ne sont plus tout à fait les mêmes et que les gens à séduire ne sont plus tout à fait les mêmes non plus.
Nathalie Moret, que le numéro 2, enfin le Premier ministre place sa rentrée sous le signe de l'environnement, du développement durable, de l'écologie, c'est décidément cap au vert.
C'était attendu depuis le deuxième discours de politique générale. Mais effectivement, que de changements. Objectivement, c'est, vous l'avez dit Gilles, il est écologiste. Comme moi, je sors du couvent. C'était pas du tout sa nature. Et le fait que le fait que les élections municipales aient lieu dans 6 mois, que dans toutes les grandes villes, les intentions de vote pour les listes écologiques ou plus Europe Écologie Les Verts et puis les satellites de ces partis écolos fassent plus de 20%, à mon avis, a fait beaucoup pour la conversion du Premier ministre. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer.
Véronique Reilsoult, on évoquait tout à l'heure la sécheresse, d'ailleurs, qui est un sujet extrêmement de préoccupation. Centrale pour les Français. C'est normal que ces thématiques-là s'installent désormais.
C'est ce qu'on disait, c'est que via la sécheresse, c'est le sujet du climat et c'est devenu un vrai sujet. C'est pas un sujet connexe, c'est un sujet central. Et donc, c'est assez logique aujourd'hui. Alors, les scores aux européennes et les projections sur les résultats qui seront obtenus lors des municipales le prouvent. Mais globalement, on voit bien, c'est un sujet qu'on sent. On disait que le moindre article autour de l'environnement, du climat et de l'ensemble de ces sujets sont souvent des articles les plus consultés, les plus lus dans la presse. Et on voit bien que c'est un sujet avant qui était peu cité. Aujourd'hui, il y a un sujet de fond, constant, avec de nouveau beaucoup de recherches de solutions concrètes et pratiques. Donc c'est assez logique qu'aujourd'hui le gouvernement soit obligé d'aborder ce sujet et de le traiter comme un vrai sujet.
Un vrai sujet. Entière. Gilles Bornstein.
Je pense qu'Emmanuel Macron et le gouvernement vont avoir un problème. C'est que cette conversion écologique est perçue, enfin Véronique connaît ça beaucoup mieux que moi, était jusqu'à présent perçue comme insincère par la population. Tout le monde voit, les gens ne sont pas idiots. Ils voient bien qu'ils parlent de vert matin, midi et soir. C'est perçu comme insincère. Et donc, pour convaincre de sa sincérité, il faut des actes plus que des paroles. Et je ne suis pas tout à fait certain que de surjouer l'écologie comme ça va convaincre les Français de la sincérité du propos. À l'inverse, on a l'impression que voilà qu'ils en font des caisses justement parce que c'est plus de la conversion.
Mais qu'est-ce que vous redoutez, que trop d'écologie dans le discours politique tue la préoccupation avec l'écologie?
Non, je redoute rien. Je redoute pour le gouvernement. Je crains pour le gouvernement que d'insister lourdement dessus comme ça ne convainque pas les Français de la sincérité de la conversion écologique d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe, dont on sait que c'est pas leur langue maternelle ni leur tessiture naturelle.
Donc c'est quelqu'un qui incarne l'écologie de façon forte au sein du gouvernement. Il y avait Nicolas Hulot qui est parti, il y avait François de Rugy qui était quelqu'un qui au moins venait de l'écologie. Aujourd'hui, c'est Elisabeth Borne qui n'a pas de sensibilité purement écologique. Donc s'il devait y avoir un remaniement dans les semaines à venir, ce qui reste une probabilité, je pense qu'il ne pourrait pas se passer d'une personne forte pour incarner cet élan vert, parce que comme vous l'avez dit, effectivement, il y a un procès en insincérité qui est fait aux deux têtes de l'exécutif.
Arnaud Gonzague, sur ce virage écologique et municipal, on va dire, et ce procès municipal, en insincérité.
Le problème, c'est que l'écologie souriante, on aimerait tous y croire, mais il y a quelques années, une ministre, Ségolène Royal, avait parlé, elle avait marre de l'écologie punitive, vous savez, et c'était juste
elle
au moment...
Elle l'a redit il y a deux jours.
Oui, c'est son credo encore, mais c'était juste au moment où, précisément, elle retirait une taxe carbone très importante. Voilà, c'est l'écologie et le sourire, malheureusement, ça ne va pas très souvent ensemble.
Gilles Bernstein.
Alors, en revanche, à l'inverse de ce que je viens de dire, je trouve que le président de la République a plutôt bien joué le coup au G7 en mettant l'Amazon, les feux de forêt, Bolsonaro au menu de ce G7, alors qu'à l'origine, ça ne devait pas y être. Ça lui a permis de parler d'environnement, ça lui a permis d'être quand même celui parmi les leaders occidentaux qui prenait le lead là-dessus, ce qui est plutôt pas mal. Ça lui a permis de se séparer de l'accord avec le Mercosur, de dire qu'il ne le signerait pas parce qu'il voyait que ce truc-là était mal parti. Quand on a vu comment a été mal voté le CETA, où y compris les militants, les députés de La République En Marche ne l'avaient pas voté, ce traité réussit à réunir contre lui à la fois les agriculteurs et les écologistes. C'est pas très facile de les mettre d'accord sur quelque chose là. Ils étaient tous les deux d'accord contre ça. Je trouve que là-dessus, il a plutôt bien joué le coup.
Allez, ce sera le mot de la fin avec vous, Gilles Bernstein. Et évidemment, toutes ces questions liées au climat, à la planète, l'environnement. On a entendu tout à l'heure Julie Smul sur le rapport du GIEC. Évidemment, vont occuper beaucoup de temps dans les informés chaque jour, chaque soir. Merci à vous, Nathalie Moret, Véronique Relsoult, Arnaud Gonzague et Gilles Bernstein. Pour ma part, je vous dis à demain soir pour une toute prochaine édition des Informés.